France Culture.
Mais tout de suite, le journal de la rédaction. Rebonjour Camille Marigot.
Rebonjour Marie, rebonjour à tous. C'est un chiffre record. Depuis 5 ans, plus d'un tiers des Français ont du mal à payer leurs factures de gaz ou d'électricité, selon le médiateur national de l'énergie. La précarité énergétique progresse et concerne surtout les plus précaires. Malgré son instabilité politique et le pessimisme des agences de notation, la France reste compétitive et devance même les États-Unis, selon un classement qui prend en compte l'économie ou encore la cohésion sociale. Nous y reviendrons en détail. Une démission qui fait beaucoup parler dans le monde de la musique classique, celle de René Martin, directeur artistique de la Folle Journée de Nantes, accusé de comportements inappropriés. À l'étranger, l'Ukraine prévient, elle a encore besoin du soutien financier des Européens pour encore 2 ou 3 ans afin de contrer l'invasion russe. Enfin, l'ONU parle de pire crise humanitaire au monde. Au Soudan, les paramilitaires ont repris la ville clé d'El-Fasher et sur place, le peu d'habitants qui n'ont pas fui manquent de tout piéger au milieu des combats. Notre invitée pour en parler sera Carline Bouvard, directrice pays pour le Soudan de l'ONG Solidarité Internationale. Elle se trouve à une 60aine de kilomètres d'El-Fasher. Arbitrer chaque minute de chauffage ou s'en priver purement et simplement le quotidien chaque automne et hiver de beaucoup de Français. Ils et elles sont de plus en plus nombreux à être en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire à avoir des difficultés à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Et cela concerne plus d'un tiers de la population selon le baromètre Énergie Info 2025 du médiateur national de l'énergie, un niveau inédit depuis 5 ans. Anaïs Perronin, bonjour.
Bonjour.
Et les personnes les plus touchées restent les plus modestes.
Oui, la précarité énergétique touche d'abord les ménages les plus modestes. Parmi les bénéficiaires du chèque énergie, 59% disent avoir souffert du froid l'hiver dernier. Cette difficulté à payer les factures atteint plus généralement les bas revenus, explique Damien Barboza, coordinateur du collectif Rénovons qui agit contre la précarité énergétique.
Ce sont ceux qui doivent allouer une partie très importante de leurs revenus à leurs factures d'électricité. Ça va d'abord être des ménages modestes, mais ça va également être des familles monoparentales, ça va être les étudiants, beaucoup aussi. Plus on travaille, plus on se rend compte qu'il y a également un sujet sur un phénomène un peu genré, où plus de femmes semblent être touchées. Donc on est véritablement sur quelque chose qui recoupe certaines des inégalités qui existent d'ores et déjà, donc on est sur une pénalité supplémentaire.
Le coût de l'énergie s'est pourtant stabilisé. Le tarif réglementé de l'électricité a baissé, mais il reste haut. La facture annuelle moyenne est de 1100 euros et les 150 euros moyens de chèque énergie ne suffisent pas, déplore Damien Barboza, qui suggère plusieurs solutions.
La première, ça va être d'augmenter le montant du chèque énergie de façon à ce que celui-ci passe à 400 euros par an et qu'il soit distribué à toutes les personnes qui sont au SMIC ou en dessous. Et ensuite, il y a le volet préventif avec l'élargissement de la rénovation performante des logements, donc travailler sur l'isolation des bâtiments, faire en sorte que le bâtiment ne soit pas une passoire énergétique. Donc il y a 2 niveaux d'intervention, un niveau assez urgent avec le chèque énergie et un niveau plus long terme avec la rénovation énergétique.
L'envoi des chèques énergie a d'ailleurs été retardé de plusieurs mois cette année, ce qui risque de mettre encore plus en difficulté les plus modestes.
Anaïs Perronin, merci. Alors que le budget, non pas des ménages mais du pays, cette fois est suspendu au débat en cours à l'Assemblée et au calendrier très serré, la France est-elle encore compétitive? En apparence, non. Il y a l'instabilité politique qui menace de s'installer dans la durée, la dégradation de notre note souveraine par les agences de notation. Mais voilà qu'un nouveau rapport publié par le cabinet de conseil financier européen Eight Advisory donne une réponse plutôt surprenante. La France arrive 17e sur 58 pays étudiés, mais s'impose devant les États-Unis ou encore la Chine. Et cela s'explique par la méthodologie utilisée. Valentin Gris, la compétitivité y est vue sous des angles multiples, pas seulement économiques.
Oui, carré carton, l'évidence immédiatement. La France ne brille pas dans le domaine de la fiscalité. Trop lourd, trop interventionniste. Elle place Paris à une 55e position sur 59 pays étudiés. Mais la compétitivité ne se résume pas à ça, défend Alexis Carclins-Marchais, associé à Eight Advisory et coordinateur de l'étude.
Beaucoup d'études, quand on entend le mot compétitivité, souvent on pense compétitivité coût, c'est-à-dire coût salarial, éventuellement coût fiscal. Et la réalité, c'est que quand on regarde les flux d'investissement, on voit bien qu'il y a d'autres dimensions qui sont prises en compte par les investisseurs. On est capable d'attirer l'investissement parce qu'on est stable politiquement, parce que les règles sont claires, parce que la loi est respectée. C'est plus intéressant d'investir. dans la durée parce que c'est plus pérenne en termes de stabilité de société.
Et dans cette vision élargie, la France compense son cadre fiscal imposant. Elle se distingue par la scolarisation massive de ses enfants, par la qualité de ses écoles de management ou d'ingénieurs, par son tissu de recherche universitaire. Et plus étonnant encore, notre modèle social, souvent décrit comme coûteux, rapporte. Il réduit la pauvreté et les inégalités de genre, renforce l'espérance de vie et l'épanouissement. Autant de facteurs de stabilité dans une période où nous semblons en manquer. Interrogé pour commenter l'étude, un économiste s'étonne pourtant. La compétitivité, cela reste en définitive des chiffres mesurables, ceux de nos déficits budgétaires et commerciaux. Mais les auteurs du rapport se défendent. Les États-Unis ont eux aussi un déficit commercial abyssal et personne ne viendrait remettre en question leur puissance économique. Surtout, et compétitive, une société qui pourvoit aux besoins de ceux qui y vivent et produisent en son sein.
Valentin Gris du service économie de France Culture. Un mot des chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 1,6 points au troisième trimestre par rapport au deuxième et de 7,6 points sur un an. Selon le ministère du Travail, une augmentation qui s'explique notamment par l'inscription désormais automatique des allocataires du RSA à France Travail.
Et les débats se poursuivent sur le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.
Et c'est demain que l'amendement des socialistes prévoyant une taxe Zuckmann allégée sera examiné. Ce matin, Marine Le Pen a prévenu. Le Rassemblement national ne votera pas cet amendement qui prévoit une taxe de 3% et non plus de 2% sur les patrimoines financiers les plus élevés à partir de 10 millions d'euros contre 100 millions dans la version originale de cette taxe Zuckmann, un élargissement de l'assiette auquel le RN s'oppose. Les propositions de loi sur la fin de vie seront de nouveau débattues en février à l'Assemblée nationale, annonce sur le réseau social X du ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous. Ces deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur la création d'une aide à mourir, ont été adoptés en première lecture à l'Assemblée en mai et devront être auparavant discutés au Sénat, où la date d'examen n'a cette fois pas encore été officiellement fixée. La fille de Brigitte Macron, Tiphaine Rosière, attendue à la barre du tribunal correctionnel de Paris cet après-midi, au deuxième jour du procès pour cyberharcèlement contre l'épouse du chef de l'État. Brigitte Macron, victime de rumeurs sur son identité de genre depuis 4 ans, rumeurs selon lesquelles la première dame est une femme transgenre, dit prévenue à la barre notamment un publicitaire proche des sphères complotistes, les autres sont enseignants, élus ou encore informaticiens. 7 d'entre eux sont présents à ce procès. Les 4 interrogés hier n'ont émis aucun regret, invoquant, Jean-Philippe Deniaud, la liberté d'expression et le droit à l'humour.
Au début, il plaide l'esprit Charlie, le droit à la satire, avec ses 40 followers et ses 30 tweets par jour, selon l'humeur du moment, dit-il. Jérôme reconnaît juste avoir été parfois un peu trash, comme cette photo officielle de Brigitte Macron à l'Élysée qu'il a postée avec un commentaire sur un pli du pantalon à l'entrejambe. C'est quand même cocasse, cette position un peu embarrassante, assume Jérôme. En tout cas, rien de grave, Brigitte Macron n'a pas pu être blessée par ce type de message, puisque les personnes connues sont habituées à se prendre des insultes, soutient le haut savoyard. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais faudrait pas que la question de son identité sexuelle soit étouffée. D'ailleurs, pourquoi a-t-elle laissé la rumeur prendre une telle ampleur ? C'est peut-être parce qu'il y a un peu de matière, non ? À la fin, Jérôme dit que c'est lui, la victime, pour avoir fait de la garde à vue et passer au tribunal pour quelques tweets anodins. C'est effrayant, commente-t-il. Donc le harcèlement, c'est pas grave, demande l'avocat de Brigitte Macron. À l'école, si, admet l'informaticien, mais pas avec des gens qui ont les moyens de s'en défendre.
Les réquisitions sont attendues en fin de journée.
Et c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit dans le milieu de la musique classique.
Accusé de comportement inapproprié, René Martin, le directeur artistique de la Folle Journée de Nantes, a annoncé sa démission. Hier, il quitte le CREA, c'est l'association qui assure la direction artistique de cet événement, mastodonte des festivals classiques. Flore Caron de conclusion d'un audit commandé en septembre concernant son comportement.
Oui, c'est la fin d'une histoire de près de 50 ans. René Martin avait fondé le CREA en 1978. Si l'association assure la direction artistique de la Folle Journée, René Martin, 75 ans, est aussi à la tête de pas moins de 14 festivals en France. Il organise tous les ans près de 1500 concerts dans le secteur de la musique classique. Mais en septembre dernier, il est épinglé par une enquête en 2 volets réalisée par le journal Médiacité et la revue spécialisée La Lettre du Musicien. Des articles
article qui mentionne notamment des dizaines de dépenses litigieuses, un management entre aura, humiliation et hypersexualisation, ou encore des salariés exposés à de la pornographie. C'est après la publication de ces articles que le CREA mandate un audit sur le comportement de son directeur, dont la synthèse met en lumière des dérives de gestion et de management. À la suite des conclusions de cette enquête, la ville a annoncé mettre un terme à sa collaboration avec René Martin et saisit le procureur de la République de Nantes au vu, je cite, de la gravité des faits. De son côté, le désormais ex-directeur de l'association conteste ces accusations. Par ailleurs, une nouvelle enquête de Médiacité parue samedi dernier à partir de nouveaux témoignages mentionne cette fois-ci des agressions sexuelles. Pour l'heure, le festival qui a lieu chaque année à la fin du mois de janvier est a priori maintenu. Mais une question se pose malgré tout. L'avenir de la folle journée est-il fragilisé par le départ de son directeur artistique historique?
Merci Flore Caron pour ces explications.
Midi 40 sur France Culture. Volodymyr Zelensky prévient Kiev aura besoin du soutien financier de l'Europe pendant encore 2 ou 3 ans pour contrer l'invasion russe.
Alors que les Européens envisagent de débloquer les avoirs russes gelés pour financer cet effort de guerre ukrainien, ce déblocage des avoirs russes sera évoqué lors d'un sommet européen en décembre et le président ukrainien qui s'est exprimé ce matin fixe donc le calendrier sur place. Bastien Bory.
Pressé de montrer que l'Ukraine vaut l'investissement, Volodymyr Zelensky cale cette guerre sur le rythme budgétaire européen, car sur les 210 milliards d'euros d'actifs russes gelés par Bruxelles, 140 pourraient aller dans les caisses de Kiev. En fixant lui-même cet agenda à 2 ou 3 ans, le président Zelensky espère un soutien européen régulier et prévisible, nécessaire pour reconstruire son pays, payer ses soldats et produire davantage d'armement sur le sol ukrainien.
Seules nos capacités balistiques à longue portée garantiront notre indépendance. Et seules les sanctions internationales, couplées à la précision de nos frappes, permettront de mettre fin à cette guerre selon des termes acceptables pour l'Ukraine. C'est pourquoi nous allons identifier d'ici la fin de l'année toutes nos cibles éloignées sur le territoire russe.
Par cible lointaine, le président ukrainien désigne les raffineries russes du bassin de la Volga, les terminaux portuaires de la Caspienne et les usines chimiques de Sibérie. Des objectifs désormais atteignables grâce, entre autres, au partage de renseignements américains.
Après l'ONU, l'Union africaine dénonce aujourd'hui des atrocités et des crimes de guerre présumés dans la ville soudanaise d'El Fasher. Après 18 mois de siège, les paramilitaires, aussi appelés forces de soutien rapide, ont pris le contrôle de cette localité de l'Ouest il y a 2 jours. Ils y ont, selon les forces alliées à l'armée soudanaise, tué plus de 2000 civils depuis dimanche. Des civils d'El Fasher pris au piège dans cette ville qui était la dernière à résister encore aux paramilitaires. Valérie Crova.
La prise d'El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, marque un tournant majeur dans la guerre que se livrent depuis plus de 2 ans les paramilitaires des FSR et l'armée régulière du général Bourane. Elle acte de facto la partition du Soudan. L'étau autour de la ville s'était resserré au mois d'août après qu'un gouvernement parallèle a été installé dans la ville de Niala, dans la partie sud du Darfour, déjà sous contrôle des forces de soutien rapide. Ces dernières peuvent désormais revendiquer une continuité territoriale. La région du Darfour est aussi grande que la France. Abritant plus d'1,5 million d'habitants avant-guerre, El Fasher s'est vidé de sa population au fur et à mesure que les FSR l'assiégeaient et affamaient ses habitants. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 26 000 personnes ont quitté la ville hier, devant des soldats montés sur des pick-up qui filmaient des colonnes de civils sur les routes. Le contrôle d'El Fasher par les FSR fait craindre le pire. Issu des milices arabes Janjaweed, un rapport d'experts mandaté par les Nations Unies leur attribuait en septembre dernier des massacres, des viols, des pillages, ainsi que des campagnes de nettoyage ethnique, ciblant principalement les communautés non-arabes.
Et les FSR contrôlent donc désormais tout le Darfour, Valérie Crova le disait, ce qui fait craindre le pire sur le plan humanitaire, alors que la situation sur place est déjà catastrophique depuis le début de cette guerre pour le pouvoir entre l'armée soudanaise et les FSR. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été tuées, plus de 12 millions d'autres déplacées, dont 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont fui El Fasher, alors que ceux qui sont sur place manquent de tout. Pour en parler, l'invité de ce journal nous répond depuis la ville de Tawila, à 60 km d'El Fasher. Bonjour Carline Bouvard.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice pays pour le Soudan de l'ONG Solidarité Internationale. Carline Bouvard, d'abord, que sait-on du sort des civils toujours coincés à El Fasher ?
Écoutez, on n'a malheureusement pas énormément d'informations en direct, mais comme tout le monde, on a pu voir les vidéos qui ont été publiées par les FSR eux-mêmes sur les réseaux sociaux et qui bien évidemment sont extrêmement inquiétantes pour la situation de ces civils. On y voit des exactions qui ne laissent pas présager d'issues très positives, sachant que cette population qui était assiégée depuis plus d'un an et demi maintenant était déjà dans une situation de malnutrition et de difficulté d'accès à tous les besoins fondamentaux extrêmement aigus.
Et Caroline Bouvard, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a évoqué un risque de violation et d'atrocité motivée par des raisons ethniques. De quoi parle-t-on ici concrètement d'abord et pourquoi la fin du siège ravive la crainte d'exactions ethniques ?
La principale raison pour laquelle les inquiétudes sont plus importantes à l'issue des combats, c'est que les populations étaient regroupées dans des zones contrôlées par l'armée régulière, qui sont donc maintenant sous le contrôle des FSR. Et donc, bien évidemment, jusqu'ici, il n'y avait pas d'accès possible à ces populations. Est-ce que cela va entraîner des exactions généralisées ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je suis pas la meilleure personne pour en parler. Par contre, on sait que la population est extrêmement inquiète de cette situation. On sait que l'attaque qui a eu lieu sur le camp de Zamzam au mois d'avril a entraîné le même type de comportement et que donc le premier réflexe de la population a clairement été de fuir la fin des combats pour essayer de se mettre à l'abri dans des zones notamment qui ne sont pas contrôlées par les FSR. D'où le fait qu'ils aient tendance à se déplacer en direction de Tawila où nous sommes et où est l'essentiel de l'aide humanitaire qui permet de toucher El Fasher, de toucher la population d'El Fasher, puisque cette ville de Tawila est en zone neutre tenu par un groupe qui n'est affilié ni au FSR ni à l'armée régulière.
Et oui, justement, les quelques 30 000 habitants de Tawila où vous vous trouvez, donc vous venez de le dire, ont vu arriver plusieurs centaines de milliers de déplacés depuis 2023. Comment travaille votre ONG Solidarité Internationale dans ce contexte ? Qu'est-ce qu'il en est des infrastructures, des ONG, des agences de l'ONU ? Est-ce qu'elles peuvent répondre aux besoins de tout le monde ?
Très clairement, non. Aujourd'hui, on considère qu'il y a plus de 800 000 personnes qui sont donc sur cette petite ville de Tawila, qui effectivement faisait peut-être 30 000 personnes environ en temps normal avant la période de guerre. Alors il y a toujours eu des personnes déplacées sur Tawila, et il y a eu aussi d'ailleurs des mouvements de population de la ville de Tawila dans d'autres zones, puisque la ville de Tawila elle-même était l'objet d'attaques à une certaine période. Mais là, on a au cours des 6 derniers mois, depuis le mois d'avril et l'attaque du camp de Zamzam, vu une augmentation extrêmement rapide du nombre de personnes, puisque plus d'un demi-million de personnes sont arrivées sur Tawila depuis le mois d'avril. Bien évidemment, les infrastructures ne sont absolument pas adaptées, donc ils se sont installés comme ils le pouvaient, ils sont arrivés sans rien, ils se sont installés comme ils le pouvaient dans des champs. Les autorités ont essayé de structurer des camps, mais l'accès à l'eau est extrêmement restreint. Aujourd'hui, on considère que l'aide humanitaire en termes d'accès à l'eau de qualité buvable est limitée à 20% de la population de déplacés qui est arrivée sur Tawila. Donc on est bien en dessous de ce qui devrait être. Et après, les autres dépendent, pour l'eau par exemple, d'accès à des puits non sécurisés ou à des qui, un, leur coûte de l'argent, qu'ils n'ont pas, et deux, n'a pas été contrôlé, ce qui a entraîné ces derniers mois une importante épidémie de choléra, avec plus de 6000 cas de choléra qui ont été répertoriés sur la ville de Tawila uniquement, dans un contexte où le choléra s'est ensuite étendu sur d'autres villages alentours.
Et la chute d'El Fasher aux mains des paramilitaires, désormais, elle va rendre encore plus difficile l'acheminement de cette aide humanitaire ?
Alors, l'acheminement de l'aide humanitaire se fait à ce jour à travers le Tchad et l'ouest du Darfour, qui est sous contrôle FSR. Donc, on arrive à acheminer de l'aide humanitaire. Simplement, c'est compliqué. Il faut 3 jours pour venir, 2 jours et demi pour venir de la frontière du Tchad. Les camions doivent passer par des pistes extrêmement compliquées dans des zones montagneuses. Donc, c'est difficile, en fait, d'amener suffisamment de matériel. Et puis, c'est contraint par différentes autorisations que les forces qui tiennent les différentes zones peuvent fournir. Donc, on va avoir beaucoup de mal à absorber, en fait, fait le volume de personnes qui est en train d'arriver. On a plus de 500 personnes déjà qui sont arrivées hier et on attend d'autres personnes aujourd'hui, donc ça va être encore plus compliqué.
Merci Caroline Bouvard, directrice pays pour le Soudan de l'ONG Solidarité Internationale, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct de Tawila, à 60 km de cette ville El Fasher, désormais aux mains des paramilitaires au Soudan. Dans le reste de l'actualité, en bref, l'entreprise Amazon annonce la suppression de 14 000 postes, sans préciser où ni quels métiers vont être concernés ces dernières heures. Les médias américains évoquaient la suppression de 30 000 postes aux États-Unis dans les fonctions support. Enfin, en Jamaïque, on se prépare à l'arrivée de la tempête Mélissa, avec des pluies torrentielles et des rafales qui charrient déjà l'île des Caraïbes. L'ouragan devient le 7e le plus intense jamais enregistré sur l'Atlantique depuis 1979. Enfin, un mot du temps chez nous. Ce mardi, la pluie et les averses se maintiennent dans une partie nord du pays. Ailleurs, les éclaircies reviennent de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Encore du vent autour de la Méditerranée. On attend 12 degrés à Metz, 15 à Paris, Lille et Brest, 17 à Bordeaux et Montélimar. La maximale, 22 degrés attendus du côté d'Ajaccio.